Voici les titres du journal.
L'association Sécurité Riviera planche sur un changement de paradigme financier. La répartition des coûts des services de secours ne satisfait plus les communes. Une nouvelle clé devrait être proposée d'ici un an. Entre les sculptures et les créations végétales, quantité d'arbres ornent les quais de Montreux. Nombre d'entre eux produisent des fruits qui ne sont que rarement consommés, mais cela pourrait changer. La pandémie n'a pas provoqué de baisse quant à l'embauche d'apprentis dans le système économique suisse. Le constat dressé ce matin de l'Office fédéral de la statistique qui évoque même le fait que les apprentis sont désormais plus impliqués dans leur formation. L'équipe de Suisse de football aura l'occasion ce soir de décrocher son ticket pour le Mondial 2022, mais elle n'aura pas totalement son destin entre les mains. Et en basketball, la situation de montée ne s'est pas améliorée hier à Boncourt.
Le temps sera souvent nuageux pour cet après-midi. Pour demain, du stratus sur la Riviera et la plaine du Chablais le matin. Sinon, le temps sera bien ensoleillé. La météo complète à la fin de ce journal. Un journal qui nous est présenté par Yves Terrani. Bonjour Yves Terrani.
Bonjour à tous. Pas de retour à la normale pour le trafic ferroviaire entre Lausanne et Genève avant lundi prochain. Des études géologiques ont montré que le sous-sol sous le Ramblais à la hauteur de Tolochna doit être mieux stabilisé. Et cela pour permettre une circulation des trains à plus grande vitesse. En attendant ces travaux, 4 trains par heure au lieu de 6 continueront de circuler dans chaque sens. L'offre de bus de remplacement entre Morges et Allaman est aussi maintenue. Les CFF appellent les usagers à éviter les voyages non essentiels aux heures de forte affluence. Pour mémoire, la ligne Lausanne-Genève est en travaux à la hauteur de Tolochna, suite à un affaissement du sol. Le trafic a été totalement interrompu durant 2 jours, puis il a repris de manière limitée.
L'association Sécurité Riviera va revoir la répartition des coûts des services de secours de la région.
Mais les communes ne sont plus satisfaites du système actuel de partage du déficit. Des discussions ont ainsi été lancées il y a maintenant 18 mois, mais qu'est-ce qui cloche avec le système actuel? Bernard Degey, municipal ablonnais et président du comité de direction de l'ASR.
Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a quelque chose qui cloche, mais en tous les cas, il est vrai que le système actuel de clé de répartition, il se base sur la population des différentes communes membres, mais avec un facteur multiplicateur. Au moment où on passe un certain nombre de seuils de population, 1000, 3500, 6000, etc., etc., ce qui fait que parfois, quand une commune à 10 ou 20 habitantes ou habitants de trop en fin d'année, ça fait un saut assez important dans la participation au déficit de l'association Sécurité Riviera.
Du coup, c'est quoi les pistes envisagées par le comité directeur?
Alors, il y a une approche académique, on va dire, de l'IDEAP menée par le professeur Seguel. Et puis, depuis, il y a d'autres approches qui ont été envisagées, une approche plutôt statistique, qui est vraisemblablement plus simple, mais un peu plus approximative. Il y a aussi une approche par palier, comme on l'a maintenant, mais avec des paliers actualisés. Une approche aussi par nombre d'habitants, avec un éloignement un peu de la réflexion du consommateur-payeur, puisqu'à un moment donné, on se disait, mais est-ce que les communes qui ont plus d'intervention des services d'ASR devraient payer plus? Et puis finalement, la dernière des approches, qui peut-être sera celle qui sera suivie, c'est pas sûr encore, puisque le CODIR n'a pas encore pris de décision, c'est une approche qu'on a appelée plutôt par situation acquise, où là, on se base un peu sur une moyenne des participations de la dernière législature, puis partant de là, ça c'est un des facteurs constitutifs du calcul du prix, puis le deuxième facteur c'est la population, mais sans palier, et puis ça constituerait 2 critères de calculation pour cette approche par situation acquise, et puis qui serait peut-être la clé qui proposerait le moins de sauts aux communes ou à certaines communes, disons.
Ça fait 18 mois hein, à peu près que les discussions ont commencé au sein de l'ASR. Vous espérez soumettre un préavis au Conseil communal des communes membres quand?
Bon, je pense qu'un délai raisonnable, ça serait une douzaine de mois, puisque maintenant, dans les étapes successives, il faut d'abord que le comité de direction se prenne position sur l'une ou l'autre des variantes, puis ensuite que les municipalités des 10 communes membres se positionnent aussi. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est une modification statutaire, et puis qu'il y a d'autres modifications statutaires qui sont nécessaires aussi maintenant, comme la modification du plafond d'endettement, et puis deux, trois modifications plutôt esthétiques 2-3 corrections en fait, notamment des références à des lois supérieures qui ont changé par exemple.
C'était Bernard Degey, président du comité de direction de l'association Sécurité Riviera. Il répondait à Isabelle Bertolini. Précisons que la révision du plafond d'endettement est notamment liée à la future création d'une maison de la sécurité sur la Riviera.
Une grande variété d'arbres est visible lorsque l'on se promène sur les quais de Montreux.
Difficile pourtant de les identifier ou de savoir si leurs fruits sont comestibles. Un élu des Verts a posé cette question lors du dernier conseil communal. La municipalité a expliqué qu'il était plutôt déconseillé de ramasser et de consommer les fruits. La raison principale ? Éviter d'endommager les arbres en procédant à une cueillette sauvage et maladroite. Pour ce qui est de l'identification, seuls les éléments rares sont dotés d'une plaquette explicative. Mais cela va changer dans le cadre d'un projet communal plus large. Irina Gauthier, municipale en charge des parcs et jardins.
Effectivement, en ce moment, on est en train de faire le processus de labellisation Ville Verte Suisse pour la commune de Montreux. Et dans le cadre de ce processus-là, une fois que l'état des lieux de la nature et des espèces rares qu'on a sur notre territoire, on a envie justement de pouvoir partager avec la population et nos hôtes de passage cette diversité-là et d'avoir donc une cartographie des arbres remarquables et des différentes espèces biologiques et de pouvoir aussi à terme mettre à disposition de la population ces informations-là sous forme de plaquettes à l'arbre ou peut-être de passer effectivement aussi au numérique, donc de pouvoir avoir peut-être des applications qui à terme donneraient des informations sur l'arbre devant lequel on se trouve.
Cette certification Ville Verte Suisse, qu'est-ce qu'il faut remplir comme critère pour y accéder ?
Alors, la certification, en fait, si vous voulez, ce qui est important pour une collectivité publique, c'est d'avoir un état des lieux, de la biodiversité en milieu urbain, des différentes espèces que la commune possède, et puis ça donnera des outils pour pouvoir améliorer les aménagements, pour pouvoir justement peut-être aussi à terme lutter contre les effets des îlots de chaleur, de savoir où un arbre apporte une vraie plus-value, quelle espèce aussi d'arbre tiendra mieux au réchauffement climatique. Ça donne énormément d'informations et d'outils justement pour pouvoir améliorer la vie des citoyennes et citoyens en milieu urbain. Un petit dernier mot aussi par rapport à cette volonté de la population de pouvoir avoir accès aux fruits sur le domaine public. C'est vrai qu'on est en train aussi de mener des projets de maraîchage urbain, donc d'identifier des parcelles en zone urbaine qu'on peut mettre à disposition d'associations qui vont justement pouvoir avoir aussi un libre accès à des arbres fruitiers dans le domaine public, mais c'est aussi un projet qu'on est en train de mener avec la population.
Des propos recueillis par Quentin Frey. Alors que Lausanne est déjà certifiée Ville Verte Suisse, d'autres cités de la région sont actuellement en plein processus afin d'obtenir le label. Il s'agit de Vevey, La Tour de Paix ou encore Aigle. La police cantonale valaisanne s'est vue contrainte d'intervenir samedi pour un rassemblement non autorisé dans le Bois de Finge à Loèche. Il s'agissait d'une Goa Party regroupant quelques 300 à 400 personnes qui écoutaient de la musique à haut volume. Les autorités communales n'ayant pas délivré d'autorisation, elles ont requis l'intervention des forces de l'ordre. Celles-ci ont procédé à l'identification et à l'expulsion des personnes sur place. Une plainte pénale sera déposée par la commune de Loèche. Les délégués du Parti Socialiste du Valais-Romand se sont réunis samedi. Le Montaisan Clément Bourgeois a été réélu par acclamation à la tête de sa formation. Il sera épaulé par deux vice-présidentes, Caroline Monet et Anne-Laure Secco. Ce congrès était aussi l'occasion pour les délégués de participer à divers ateliers, dont un sur la mobilité. Un rendez-vous qui a notamment été marqué par l'intervention du président du Parti Socialiste de Montreux, Romain Pillou, également secrétaire général de l'association Transport et Environnement. Charlie, c'est le nom du nouveau projet, du nouveau bâtiment des sciences humaines de l'Université de Lausanne. Le jury du concours d'architecture a désigné à l'unanimité le dossier du bureau lausannois Background Architecture, lequel propose un volume compact et rationnel à proximité sud des bâtiments internefs et extranefs. En outre, il répond à des exigences particulières élevées en termes de durabilité. Dédiée à la faculté des hautes études commerciales, la construction de Charlie est devisée à 46,4 millions de francs. Elle accueillera jusqu'à 1200 étudiants dès la rentrée académique 2028. Il y a eu 40% de visiteurs en moins cette année au château de Saint-Maurice. Son directeur Philippe Duvanel l'a annoncé aujourd'hui, au lendemain de la clôture de la saison de l'institution à Gaunoise. Une baisse de fréquentation qui s'explique notamment par le contexte sanitaire difficile. Le château se réjouit toutefois d'avoir pu accueillir plus de 7000 visiteurs et d'en avoir attiré plus de 14 000 sur 2 ans avec son exposition Pinocchio. Ce bilan annuel a aussi été l'occasion d'annoncer la prochaine exposition intitulée « Drôle de chat ». Le public pourra découvrir dès le 9 avril prochain nombre de dessins et d'histoires inspirés à des auteurs d'ici et d'ailleurs par le petit félin. Les professionnels de l'humour aussi ont besoin d'échanger, une conviction partagée par le fondateur du Montreux Comédie, Grégoire Fourère, et l'humoriste Jean-Luc Barbeza. Les deux hommes annoncent aujourd'hui la naissance des Montreux Comedy Convention en marge de la 32e édition du festival. Le but, permettre aux acteurs de la branche d'échanger autour des enjeux et défis du monde de l'humour. Ces rencontres seront lancées les 6 et 7 décembre prochains avec les états généraux de l'humour suisse, au programme notamment la liberté d'expression, les femmes dans l'humour ou encore la multiculturalité. Les consultations pour les enfants et les jeunes au sujet du suicide au service 147 de Pro Juventute ont presque doublé durant l'année en cours. Les jeunes sont particulièrement touchés psychologiquement par les conséquences de la crise du coronavirus. Par rapport à 2020, le service 147 a effectué cette année 40% de consultations en plus sur les pensées suicidaires, a indiqué aujourd'hui Pro Juventute. Près de la moitié des jeunes qui consultent l'organisation disent avoir été harcelés sexuellement sur Internet. Les demandes de soutien sur le choix de carrière ont en outre augmenté de 23% par rapport à 2020, avec beaucoup de questions sur le surmenage et le stress. En Suisse, l'exécution des sanctions a diminué de plus d'un quart l'année dernière. La baisse dans les effectifs, les incarcérations et les libérations est entre autres liée à la pandémie de coronavirus. En 2020, 10 945 peines et mesures ont été exécutées en Suisse contre 13 810 un an auparavant, indique l'Office fédéral de la statistique dans un communiqué diffusé aujourd'hui. Plus des deux tiers étaient des incarcérations dans un établissement pénitentiaire. Moins d'un tiers représentait des prestations de travail d'intérêt général et 3% des sanctions exécutées sous forme de surveillance électronique. 86% des exécutions concernaient des personnes de sexe masculin et 42% des personnes de nationalité suisse.
Le monde suisse de l'apprentissage se porte plutôt bien. Merci pour lui.
Oui, lors de l'arrêt brutal des activités économiques au printemps, arrêt provoqué, on le rappelle, par la première vague du Covid, la crainte est apparue de voir les entreprises renoncer à engager des apprentis. Or, il n'en a rien été, a constaté ce matin l'Office fédéral de la statistique. La crise a même rendu les apprentis plus studieux. À Berne, les explications de notre correspondant palais fédéral, Serge Jubin.
Comme ces dernières années, 46% des jeunes terminant leur scolarité en Suisse ont entamé un apprentissage en été 2020. La bonne nouvelle est ainsi double. Les entreprises ont continué à engager des apprentis et l'apprentissage est resté une formation post-scolaire initiale prisée. La crise n'a pas eu d'effet non plus sur les domaines de formation choisis. Elle en a peut-être eu des effets positifs sur l'assiduité des apprentis privés de loisirs comme le reste de la population. Résultat, moins d'interruptions de formation et de contrats cassés, 6% en 2020 contre 7% en 2019. L'an passé, 96% des apprentis qui se sont présentés à l'examen pour obtenir un CFC ou une AFP ont décroché leur certificat. C'est mieux de 3 points que les années précédentes. La hausse du taux de réussite est même plus prononcée en Suisse romande, plus 5,4%. Autre information livrée ce matin par l'Office fédéral de la statistique, la pandémie et la fermeture des frontières ont eu un effet sur les entrées dans les hautes écoles et les universités en 2020, plus 8% d'immatriculation de jeunes Suisses. Habituellement, c'est quelques 8% de bacheliers prennent une année pour voyager ou pour effectuer un séjour linguistique. Cela représente 1500 jeunes qui ont en quelque sorte précipité leur entrée dans une haute école.
C'était donc Serge Jubin, notre correspondant à Berne. Vous lire encore qu'un groupe de journalistes et de citoyens a lancé la plateforme romande d'information Covid Hub. Selon le collectif, l'idée est de donner au public des informations et témoignages qui lui manquent pour se faire une opinion indépendante sur la pandémie. Plusieurs thématiques seront abordées, comme les mesures qui affectent la population, les enjeux économiques, les libertés et le vaccin. Ce média alternatif est composé d'un noyau de journalistes professionnels et d'experts en santé publique. L'arrivée de cette nouvelle plateforme vient d'un constat du collectif pour qui les médias dits classiques manquent de pluralité en matière de traitement de l'information. La chaîne du bonheur a soutenu 209 projets avec sa collecte Coronavirus Suisse, laquelle a réuni 43,5 millions de francs. Ce sont 14 000 personnes qui ont reçu une aide financière pour payer des loyers, des frais de santé ou encore de la nourriture. Le CSEM à Neuchâtel coordonne un projet européen nommé Clean Skies Fismodix qui développe un œil électronique. Ce dernier pourra détecter les dommages et les défauts dans les fuselages des avions. Le dispositif facilitera considérablement les inspections en évitant de longs arrêts au sol des appareils ou alors des démontages. Le journaliste et auteur-compositeur suisse Jonas Folloni a reçu samedi la médaille d'argent de la Société Académique Arts, Sciences, Lettres de Paris, a-t-on appris ce matin. Le jeune homme de 25 ans est récompensé pour son engagement culturel et journalistique dès ses 17 ans. Valaisan établi à Neuchâtel, Jonas Folloni a déjà mené une belle carrière de journaliste auprès de différents médias en Suisse comme Cette Info, La Télé, Le Confédéré, Neuchvox, Bon pour la Tête ou Watson, peut-on lire dans un communiqué. Au centre de ses activités journalistiques qui ont suscité l'intérêt de l'Académie, la création notamment du mensuel roman Le Regard Libre, une revue basée à Neuchâtel, orientée culture et débat d'idées. Il en assure la rédaction en chef bénévole.
À l'étranger, l'Union européenne va durcir les sanctions contre le Bélarus accusé d'organiser un afflux de réfugiés à la frontière polonaise pour faire pression sur l'Europe.
Oui, c'est ce qu'a annoncé le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, ce matin avant une réunion à Bruxelles. Heiko Maas qui a évoqué notamment plus d'intransigeance contre les personnes impliquées dans le trafic de migrants, estimant aussi que, je cite, des sanctions économiques sévères sont inévitables. Moscou a jugé de son côté ce matin toujours erroné de rejeter toute la responsabilité de la crise migratoire à la frontière polono-bélarusse sur Alexandre Loukachenko. Porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a ainsi déploré que l'Union européenne fasse abstraction des idéaux européens d'humanisme alors que des milliers de migrants sont bloqués dans le froid sous les tentes de fortune à la frontière avec la Pologne. Trois hommes ont été arrêtés pour terrorisme hier en Angleterre. Ils sont suspectés dans le cadre de l'enquête sur l'explosion d'une voiture hier matin devant un hôpital pour femmes de Liverpool. Chargée de l'enquête, la police antiterroriste du nord-ouest du pays a précisé que l'explosion avait fait une victime, le passager de la voiture, probablement un taxi. Le conducteur, lui, a été blessé et hospitalisé. Les circonstances des faits restent encore floues. Plus de 300 000 Européens ont perdu la vie à cause de la pollution de l'air en 2019. Le chiffre a été rendu public hier par l'Agence européenne de l'environnement. Dans son rapport, l'agence souligne une baisse du nombre de morts de plus de 10% en un an. Une baisse due aux conditions météorologiques et à l'amélioration progressive de la qualité de l'air. Mais l'AEE souligne également que plus de la moitié des décès pourraient être évités si les 27 respectaient les nouveaux objectifs de qualité de l'air fixés par l'Organisation mondiale de la santé. Enfin, pour en terminer avec cette page consacrée à l'actualité étrangère, le port du masque est de nouveau obligatoire à l'école élémentaire dans toute la France depuis aujourd'hui, et cela afin d'enrayer l'augmentation des contaminations par le Covid-19. Jusqu'à présent, les écoliers du CP au CM2, les quatre premières années primaires, devaient porter le masque dans 61 départements. Toute la France est désormais concernée. Et on termine ce journal de la mi-journée avec une page de sport en football. L'équipe de Suisse peut se qualifier ce soir pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Deuxième du groupe C des éliminatoires, les Helvètes devront battre la Bulgarie à Lucerne. Mais il faudra aussi compter sur une contre-performance de l'Italie au même moment à Belfast contre l'Irlande du Nord. Si elle n'a pas complètement son destin entre les mains, la Nati connaît toutefois sa mission, inscrire un maximum de buts pour empocher les trois points de la victoire. Alors comment conserver le bon équilibre dans une rencontre où marquer est primordial. La réponse de l'attaquant de l'équipe de Suisse, Mario Gavranovic.
Il veut rester concentré sur ton boulot, sur ce que tu dois faire, et être prêt à chaque occasion qu'il arrive. Il ne faut pas vouloir trop. On a notre automatisme, on se connaît déjà longtemps, les joueurs ici, la plusieurs parts de joueurs, et en fait c'est continuer, même quand on loupe des passes ou des occasions, on doit continuer et être prêt à chaque prochaine occasion qu'il arrive.
En Italie, vendredi, la Suisse ne devait pas perdre, mais ce soir, elle devra gagner, quoi qu'il arrive. À Lucerne, les attentes seront donc élevées pour les Helvètes, mais pas de quoi bouleverser pour autant l'organisation de l'équipe, à en croire le sélectionneur Murat Yakin.
Non, je pense que du système her, pas... Je ne pense pas que le système va beaucoup changer par rapport au match contre l'Italie. Nous avons toujours beaucoup d'absences, que ce soit sur blessure ou bien à cause de suspension. Mais nous notons le retour de Mario Gavranovic qui aura un grand rôle à jouer dans ce match face à la Bulgarie. Avec son expérience et son intelligence de jeu, sa présence devant le but sera importante pour nous. Nous aurons également besoin de vitesse, de dynamisme et pas seulement en individualité mais en équipe. Marquer rapidement dans la partie sera aussi un objectif. On sait que ça peut aider. On l'a vu lors du match vendredi soir. Nous avons joué avec courage. Il faudra le reproduire contre la Bulgarie.
Nous jouons contre l'Italie et versuchen natürlich druckvoll wie möglich und unsere Chancen effizient auszunutzen.
Des propos recueillis et traduits par notre envoyé spécial auprès de la Nati Ludovic Turin. Le coup d'envoi de ce dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 entre la Suisse et la Bulgarie sera donc donné à 20h45 à Lucerne.
En basketball, les week-ends se suivent et se ressemblent pour le BBC Monté-Chablais.
En pleine crise en ce début de saison, la formation valaisanne a concédé une 7e défaite en 7 rencontres de SB League hier à Boncourt. Face à un concurrent direct au classement, les Sangliers ont payé cher leur deuxième carton manqué. Menés de 17 points à la mi-match, les Chablaisiens sont partis de trop loin pour espérer ramener un succès de leur déplacement dans le Jura. Même s'ils sont revenus sur les talons de leur adversaire en toute fin de partie, ils se sont finalement inclinés 86 à 84. Dans les remontaisans, il y avait donc de quoi avoir des regrets à la fin de ce duel. La réaction de l'entraîneur du BBC Monté-Chablais, Patrick Pembélé.
Il y a beaucoup de regrets, mais je dirais, j'ai vu pour la première fois de la saison un réel cœur dans les moments difficiles. Et ça, aujourd'hui, pour moi, c'est un réel soulagement, parce que j'ai vu du caractère. Et j'avais besoin de voir du caractère. À la mi-temps, j'en suis devenu fou. Et il y a une belle révolte. Alors peut-être que je commence à parler leur langage. Je vais le voir d'un œil positif. Mais il y a énormément de frustration, parce que le rebond aujourd'hui encore, même si on passe à côté de ce deuxième carton, le rebond, il aurait pu nous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien si on l'avait gagné aujourd'hui.
On entend que vous n'avez plus forcément beaucoup de voix. Il y a eu une vraie soufflante, une vraie gueulante, comme on dit, à la mi-temps dans les vestiaires.
Clairement, c'était inacceptable ce qu'on avait produit là pendant ces 5 dernières minutes. Et quitte à tout perdre, il fallait tenter tout pour le tout. Et je disais, j'ai tous attaqué individuellement et ça a bien payé.
Voilà, renforcé par l'arrivée la semaine dernière d'un quatrième joueur américain, Dikembe Dixon, les Montezans vont devoir réagir très vite. Il ne leur reste que 2 rencontres dans ce premier tour du championnat pour débloquer leur compteur de victoire. L'intérieur des jaunes et verts, Brunel Tutonda, en a bien conscience.
Ça fait déjà un moment qu'il faut qu'on aille chercher une victoire. Là, clairement, on a 2 actes d'adversaires directs. On va tout faire pour pouvoir aller les chercher, ces 2 victoires. Elles seront très importantes. On va surtout retenir de ce match aujourd'hui la fin du match, le caractère qu'on a montré, puis essayer de le transmettre sur le prochain match et puis aller chercher ces 2 dernières victoires.
Les propos recueillis par Julien Traxel. A noter qu'au terme de cette rencontre perdue à Boncourt, le président du BBC Monté-Chablais, Laurent Duchou, a rappelé que le poste de Patrick Pembélé n'était pas menacé. L'entraîneur valaisan garde la confiance de ses dirigeants. Enfin, une nouvelle de hockey sur glace encore. Fribourg-Gotteron a décidé de se séparer de Yannick Herren. Surnuméraire chez les Dragons, l'ancien attaquant de Lausanne qui compte plus de 500 matchs de National League a été transféré à Lugano. En échange, les Fribourgeois ont récupéré Timo Hausener. Mais si cet échange prend effet immédiatement, Yannick Herren va rester sous contrat avec Gotteron jusqu'au terme de la saison.
Retrouvez toute l'actualité en podcast et en vidéo sur radiochablais.ch. La météo avec Estémédis, à la maison de santé de Colombey-Murat et son nouveau soin exclusif hydrafacial, le soin des stars. Estémédis.ch.
Le temps sera souvent nuageux cet après-midi avec quelques éclaircies, probablement plus belles dans la plaine du Chablais et sur la Riviera. Et sur la Riviera, il faudra aussi s'attendre à de la bise. Il va faire jusqu'à 9 degrés en plaine, 6 à 1000 mètres et 5 à 2000 mètres. Pour demain, du stratus avec un sommet de vers 1200 mètres pouvant être tenace sur la Riviera. Ces bancs de stratus sont également possibles dans le Chablais, mais ils vont se dissiper plus rapidement. Et puis, au-dessus, le temps sera bien ensoleillé demain de 4 à 10 degrés en plaine, de 3 à 8 à 1000 mètres et de moins 2 à 5 degrés à 2000 mètres.